Messieurs, dames, je vous renouvelle quelques mots de bienvenue dans ces conférences où nous découvrons la vérité de nos vies. Parce que l'homme est au centre de tout dans la Bible. Dieu a tout fait pour l'homme. Il est venu pour l'homme. Il y a beaucoup de mystères. Je pense à ce texte de l'Ecclésiaste. Qui sait si le souffle de l'homme monte? Qui sait si le souffle de la bête descend? On ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. Si nous n'avons pas l'éclairage de la vérité biblique, on ne voit rien. On ne ressent rien. On ne sait rien. Mais nous allons ensemble lire un texte d'introduction dans l'évangile de selon Luc au chapitre 16, un texte qui peut paraître redoutable. On va affronter certaines difficultés, je ne vais pas aller trop loin, je ne fais que de citer et d'apporter une petite interprétation modeste. C'est un domaine où je ne suis maître de rien, ni vous ni moi. Et je ne veux pas broder. Il faut rester. D'abord, vous m'entendez bien? Non, on n'entend pas bien. Voilà. Et là, ça va mieux? Il faut que je parle fort, malgré les micros. Bon, nous allons d'abord lire l'évangile de Luc, chapitre 16, au verset 19. Je pense qu'il s'affiche sur le mur de la baie aveugle. Ensuite, je vais prier quelques secondes. C'est une parole de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le mauvais riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. » Je prie. Nous sommes devant ce texte et devant ce thème du jugement et de la résurrection. Et nous avons besoin de ta lumière. Secours-nous, attire-nous à toi, guéris nos esprits, guéris nos corps et nos âmes, nous plaçons notre vie avec nos familles devant toi pour qu'ils soient éclairés aussi. Amen. Le thème ne vous effraie pas trop? Ça va? Si vous ne respirez plus, vous ne vous levez la main. Jugement et résurrection. Depuis le commencement de la Bible, on parle de jugement. Ecclésiaste, Ancien Testament. Jeune homme, réjouis-toi dans tous tes chemins. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il te demandera compte de tout ce que tu as fait. Donc ça signifie, Dieu jugera tes actes, même ceux qui sont accomplis en cachette, les bons et les mauvais, les bons aussi. Prenez pas le jugement comme étant obligatoirement une condamnation. Jugement, c'est aussi arriver sur le podium et avoir la couronne. C'est ça aussi un jugement. Donc nous avons vu l'avènement du Christ, le retour du Christ. Et avec le retour du Christ, il y a deux grands événements auxquels vous participerez, et moi aussi. Le jugement et la résurrection. Ça fait partie de notre histoire humaine, encore invisible, mais ce n'est pas encore venu cela, mais ça fait partie de notre destinée humaine. Le jugement, même si certains frémissent un peu, fait partie de l'espérance chrétienne. Paul dit, l'apôtre Paul, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, ça veut dire d'après la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle du Christ, Dieu jugera par le Christ les actions secrètes des hommes, les bonnes et les mauvaises. Jésus, dans ses paraboles, qui sont plaisantes, agréables, agricoles, dans ses paraboles, Jésus parle souvent de la fin du monde et du jugement, qui n'est pas encore maintenant. Si quelqu'un se blesse, je ne dis pas, c'est un jugement. Le jugement, ce n'est pas encore. Alors, quand on regarde les pages de la Bible, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean qui a été spectateur avant l'heure des choses à venir. L'apôtre Jean dit, « Et je vis les morts, pas dans le cimetière, mais près de Dieu, devant Dieu. Et je vis les morts devant le trône blanc, et des livres furent ouverts. » Apocalypse, chapitre 20. Des livres sont ouverts. C'est le jugement dernier. Également annoncé dans l'évangile de Matthieu et d'autres évangiles. Et l'apôtre Paul ajoute, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même. Une notion de responsabilité. On est responsable de sa vie. Dieu nous appelle des grands. Chacun rendra compte, c'est-à-dire personnellement, de ce qu'il a fait ou pas fait. Mais on le ressent en nous-mêmes. Quand on est sincère devant son miroir, on sent bien qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, parfaites, accomplies, et que le jour où nous disparaîtrons, plus tard possible, il nous faudra rendre des comptes. On le ressent naturellement en nous. Et les livres sont ouverts. Ouh là là. Des livres dans lesquels il y a tous nos actes. Tous. Enfin, nous allons nous connaître ou nous reconnaître. Nous lirons, nous savons lire, nous lirons tout ce que nous avons fait étant sur la terre. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce qu'on n'a pas fait que du bien. Mais il y a un autre livre, le livre de vie. Et tout dépend de notre inscription, non pas dans le livre de nos actes, mais dans le livre de vie. C'est ce livre qui nous garantit notre salut éternel. Le Christ a écrit là. Il a écrit notre nom, un nom nouveau sûrement, je ne le connais pas. Donc ce qui veut dire que le croyant en Christ, le réconcilié, je préfère réconcilier, le réconcilié avec le Christ, ne va pas jusqu'au jugement, jusqu'à la condamnation. Ça c'est important. Il a reçu la vie éternelle. Il est entré dans la vie du Christ. Mais il faut que ces actes quand même soient examinés. Il faut que ces actes soient en lumière. Donc il passe, entre guillemets, un jugement. Un petit jugement, c'est pas la condamnation. Et nous entendrons « Vous m'avez donné à manger ». J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Vous m'avez vêtu, vous m'avez visité. Ça, c'est notre jugement aussi. Hein. Ce n'est pas de dire simplement « tu n'as pas fait », mais « vous avez fait quelque chose ». Donc, dans tous ces livres-là, tout sera vu dans la vie du chrétien. Tout est vu. J'ai l'impression que nous sommes filmés 24 heures sur 24. L'apôtre Paul, dans une épître, il compare notre vie à une construction, une maison. Et il dit, nous construisons tous avec des pierres. Et quand on construit bien, avec des matériaux nobles comme les perles précieuses, l'or, ça veut dire qu'on construit avec les richesses spirituelles, morales, les meilleures. L'amour, le dévouement, la foi, ça c'est des matériaux qui ne disparaîtront jamais. Mais si nous construisons avec le paraître, l'égoïsme, l'argent, l'inintelligence, eh bien, tout notre travail de la vie va disparaître. J'écoute bien ça. Ce qui signifie que il y aura un salut proclamé pour ma vie personnelle, mais aussi un salut pour ce que je fais. Ce que je fais est appelé à durer toujours. L'Apocalypse dit quand on meurt dans la foi, nos œuvres nous suivent dans l'éternité. L'homme, ce n'est pas une étoile filante. Il se pose sur la terre, il se posera dans le ciel avec un héritage qui vient de la terre. Donc il peut tout perdre. Mais s'il a la foi dans le Christ, lui, il ne sera pas perdu. Paul dit, il sera sauvé comme un homme se sauve du feu, juste. Mais il a construit avec du chaume, du bois, de la paille, du paraître, de l'orgueil, etc. Il arrive, il n'a plus rien. Mais lui, il est là. Bon, c'est beaucoup déjà. Hein. Mais il perd toutes ses années de vie, pas forcément de travail manuel, ses années de vie, de relations, où il a construit, mais mal construit. Donc ce qui est important à dire ici, c'est que être perdu dans l'éternité, pas rien, ou être sauvé, ne dépend pas de ce que nous faisons. Être perdu ne dépend pas du mal que je fais, ou être sauvé ne dépend pas du bien que je fais. Mais de ma foi en Jésus-Christ qui m'a réconcilié avec Dieu notre Père. Ça a été mis en valeur bien avant moi par les protestants, bien sûr. La foi seule, la grâce seule, avec ma foi, pas la foi d'un jour, pas la foi in extremis seulement, mais la foi de toujours, ma foi de chaque jour. Il n'y a pas un troisième chemin. Il n'y a pas un chemin pour le rattrapage. Je le dis, sûrement des amis catholiques ici, je le dis, je n'ai pas vu dans la Bible de traces du purgatoire. Et beaucoup de catholiques, même des prêtres et des évêques, me l'ont dit aussi. On ne trouve pas ça. Il y a deux chemins. Le chemin large, le chemin étroit. Le chemin avec Christ, le chemin sans le Christ. Voilà comment ça se fait. Alors, bon, j'avance. Ceux qui ont donc cette foi dans le Christ qui arrive, ils auront des récompenses. Nous serons récompensés pour ce que nous avons fait de bien dans l'amour. C'est le maximum, c'est l'amour. Alors, quelle récompense ? Une médaille ? Un petit hocher, comme disait Napoléon, pour se moquer de ses soldats, on leur mettra un hocher. Je pense que la récompense ne se fera pas avec de l'argent, de l'or, des médailles, etc., des palmes. Je cite le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, « Ils brilleront comme la splendeur du ciel, comme la splendeur des étoiles. » Vous ne voulez pas que je sois brillant dans le ciel ? Mais l'apôtre Paul, il rajoute un mot, des années plus tard. Il dit, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est vrai, dans le ciel, parfois, il y a des étoiles très lumineuses et des étoiles plus faibles. Alors, j'ai pensé que la récompense serait une sensibilité. Une sensibilité plus ou moins profonde aux gloires du ciel. Parce que quand nous serons dans le royaume du ciel, nous resterons quand même toujours limités. Nous ne serons pas Dieu. On n'aura pas toute la science, toute la connaissance, on ne sera pas partout à la fois. Quand on sera là, on ne sera pas là. Donc nous resterons limités. Nous n'aurons pas l'intelligence de Dieu. On ne partagera pas ce que Dieu est. Non, ça c'est fini. Vous serez comme des dieux, disait le diable dans le jardin d'Éden, le serpent. Mais le Seigneur nous fera certainement découvrir, plus ou moins, les splendeurs de son royaume, plus ou moins. Mais ça prendra du temps parce que nous n'aurons jamais fini de découvrir les choses de Dieu. Jamais. Quand on dit « c'est fini, je sais tout », c'est triste. Et quand nous serons dans le royaume d'en haut, on découvrira constamment la richesse de notre Dieu. Richesse d'amour, d'intelligence, de beauté. Beauté suprême. Donc il y a un jugement dernier. Et, j'ai mis le jugement au pluriel sur le petit dépliant, il y aura un jugement, un pré-jugement. La vie est compliquée. Hein ? Le jour où nous mourrons. Après la mort, dit l'apôtre, vient le jugement. Regardez le riche, le mauvais riche. On peut être riche et très bon. C'est un mauvais riche. Et Lazare, le pauvre. Après leur mort, ils sont dans deux lieux différents, avec deux conditions différentes. Ils ont été jugés. Un pré-jugement. Notre destinée éternelle est décidée à la mort. Et même un peu avant, quand on reçoit l'Évangile, si nous le recevons dans notre cœur comme étant parole de Dieu, déjà notre destinée est tracée. Et le jour où nous mourrons, ce sera un préjugement qui décidera définitivement pour la suite. Sur la croix, à côté de Jésus, à quelques centimètres de Jésus, le brigand qui meurt et qui se tourne vers le Christ en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le Christ répond « Tac au tac, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il a été sauvé par son regard sur Jésus. Et puis, il est parti, il est mort après. On lui a cassé les jambes, il s'est affalé sur la croix. Et là, il est parti. Donc, déjà, il a été mis dans le jugement, il a été reçu par le Seigneur. Ainsi, les croyants qui meurent sont déjà dans la paix et la joie du Christ. Magnifique. Sans connaître toute la plénitude du salut. Vous comprenez que Dieu ne nous dise pas tout et ne nous montre pas tout en une seconde. Parce que le paradis, le brigand là-haut, le paradis, il est arrivé, il n'avait pas son cœur. Donc il n'était pas dans la finitude, dans la plénitude que nous connaîtrons à la résurrection. Il y a un temps, on appelle ça, je vous en parlerai un jour si vous me demandez, hein, c'est pas facile à dire, mais je veux bien, on appelle ça l'état intermédiaire. Entre la mort et la résurrection, il y a un état là, où sont actuellement des milliards d'êtres humains, il y a un état où l'on attend. Et le brigand de la croix, il attend aujourd'hui. Donc ceux qui ont fait le mal et qui ont été contre Dieu, qui ont refusé le pardon, la réconciliation, la transformation, le bouleversement que Dieu propose, eh bien, ils souffrent déjà. Mais ne bougez pas. Je vais vous dire comment je comprends ces choses. Ils souffrent déjà, l'apôtre Pierre donne un petit mot, ils sont comme emprisonnés, ils sont réservés pour le jugement dans la suite. Alors rappelez-vous bien surtout, le premier jugement c'est quand on reçoit l'évangile. Et là, on décide de tout. C'est le grand jour, c'est le petit pas qui nous entraîne vers le grand pas. Et ce petit pas, personne ne peut le faire sinon nous-mêmes appelés, attirés par Jésus. Mais les choses se décident là. Alors, quel est le sens du jugement? Un jugement, pour Dieu, c'est un dévoilement. Tout sera dévoilé. Souvent, on dit, un tel, il a fait ça, une telle, elle a fait ça. Les apôtres disaient, ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera, attention, les intentions des cœurs. On juge trop facilement. On encadre les gens dans une catégorie où on les laisse ainsi, étant méchants, injustes, etc. Ne jugez de rien avant le temps, avant la mise en lumière, où Dieu montrera ce que personne n'a vu, c'est-à-dire les mouvements intérieurs, les intentions, le pourquoi, le comment. Dans l'évangile, il y a l'histoire de cette femme, une veuve qui avait mis deux petites pièces dans le tronc. deux petites pièces, mais elle avait mis toute sa fortune parce qu'elle n'avait plus rien. Alors, devant les riches, il devait dire, oh la misérable, elle n'a rien à mettre. De juger de rien. Elle a mis plus que tous, a dit Jésus. Elle a mis de son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais ça, on ne le voit pas. On ne voit pas les souffrances et les renoncements et les chagrins, et la beauté intérieure. On ne voit pas le pourquoi et le comment. Mais quand sera l'heure du jugement, le voile se lèvera. Vous savez que Apocalypse, ça veut dire dévoiler. Ça ne veut pas dire des choses terribles. C'est un dévoilement. Rien, le Christ a dit, rien de secret ne doit être connu. Ça va? Vous suivez toujours? Tous vos secrets seront connus. Rien de caché qui ne doive être découvert. J'ai l'impression que dans le ciel, tout sera transparent. La nouvelle Jérusalem est présentée dans la Bible comme étant une ville transparente. Il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse, attention. Beaucoup d'images. Transparente. Parce que on nous connaîtra, mais le Christ aura passé par là, et il aura réparé, effacé. Donc, le bien ou le mal, tout cela sera mis en lumière. Les souffrances, les actes de foi, les prières, les attentes, les solitudes, tout sera en lumière. Il faut bannir toute crainte. Parce que en lumière, ce ne sera pas que des petites choses cachées, mystérieuses ou un peu sournoises. Ce sera aussi toute la beauté de notre vie d'amour, de relation. Je crois dans le jugement. D'ailleurs, quand on voit l'univers, on sent qu'il y a un jugement. Si vous enfreignez une loi de l'univers, boum, ça ne passe pas. Si vous jetez une pierre en l'air, elle retombe très vite. Ça ne passe pas. Il y a des lois dans l'univers. La gravitation, la pesanteur. On doit respecter. Sinon, ça se retourne contre nous. Alors, moi, je pense que le jugement, ce sera bien ce retour des choses vers la vérité. Mais dans le jugement, il y a un juge. Et ce juge, la Bible dit, il jugera par Jésus-Christ. C'est lui qui nous jugera. Ah, ça me rassure. Ce n'est pas quelqu'un d'inconnu qui ne me connaît pas, qui est un monstre. C'est le Christ qui me jugera. C'est un personnage que je connais. Je le connais comme étant doux, humble, juste, bon. Rien que ça, ça chasse la peur du jugement. Les apôtres disaient, l'amour parfait bannit la crainte. Quand on se sent aimé, on n'a plus peur. Et nous sommes aimés immensément par le Christ, donc chassez la crainte. Même si nos actes, certains de nos actes seront mesurés, enfin, tous nos actes seront mesurés, pesés. Mais comme disait l'apôtre Jean, si notre cœur nous condamne aujourd'hui, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses, le pourquoi, le comment. Et puis, rassurez-vous, c'est un jugement de miséricorde. Béatitude. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ceux qui ont été bons et pardonnants aux autres, le Seigneur vous dit, il vous sera fait aussi miséricorde. C'est important. Je cite cette parole très importante de l'épître de Jacques, frère de Jésus. le jugement est sans miséricorde,
oui,
pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Ça montre bien qu'à la fin, devant Dieu, il y a une notion d'amour qui sera prise en compte. Une notion de miséricorde. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez revêtu. Et ça pèsera dans la balance quand nous serons devant le juste juge et l'ami, Jésus-Christ. Je répète, la miséricorde triomphe du jugement. En grec, la miséricorde se rit du jugement. Je vais passer. En grec, c'est ça. La miséricorde est fanfaronne. Je vais passer parce que j'ai confiance en Dieu et parce que j'ai fait miséricorde à ceux qui m'ont offensé ou qui ont eu besoin ou qui étaient dans la peine. La miséricorde, elle se rit. C'est comme ça que traduit la Bible de Jérusalem. Elle se rit du jugement. Elle est plus forte que le jugement. C'est beau ? C'est beau ou c'est pas beau ? J'accélère. La résurrection. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il descendra du ciel et les morts ressusciteront. Prochaine étape de votre vie. Dans ces derniers temps que nous vivons, mais les premiers aussi, les apôtres, les disciples du Christ, ils prêchaient avec force la résurrection. Il est dit qu'ils étaient au portique de Salomon à Jérusalem, et là, ils claironnaient avec dynamisme et joie la résurrection. C'est important parce que, naturellement, on a peur de mourir. Parce qu'on ne sait pas. Il faut un pont, il faut une béquille, il faut une lumière, il faut un point de repère. Il faut prêcher la résurrection. Les incroyants ressusciteront. Ils ne disparaîtront pas. Personne ne disparaîtra. La mort ne gardera rien pour elle. Tous nous en sortirons avec des corps ressuscités. Mais ceux qui ont fait le mal contre les autres et contre Dieu ressusciteront pour le jugement. Attention, c'est sérieux. C'est pas n'importe quoi, on ne lance pas des pierres en riant, ça retombe. Et ceux qui dorment, là je cite un prophète Daniel, c'est le seul verset de l'Ancien Testament qui est aussi lumineux sur la question. Ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, c'est une image un peu, mais se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Je retiens le mot, je vous dirai juste à la fin. Pour la honte éternelle. La résurrection de Jésus-Christ est le signe, l'appel pour nous. C'est le premier fruit, dira l'apôtre. C'est les prémices, le premier fruit d'une grande résurrection qui atteindra l'humanité. Dans la résurrection, la puissance de Jésus ressuscité se communique à notre corps. Ce n'est pas une réanimation. J'ai vu des tombeaux, au Bec-et-Loin par exemple, il y a des tombeaux vides, vides parce qu'il n'y a plus un grain de poussière dedans. Ce n'est pas une réanimation, c'est une transformation à partir de la mémoire de Dieu. Du code génétique de Dieu, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus. Mais un code génétique, ce n'est pas visible. Hein. Donc, il y aura une transformation et il y aura deux résurrections. C'est complexe, la vie. La résurrection de notre esprit, c'est fait, moi, ça y est, c'est fini. C'est en cours, quand même. La résurrection de notre esprit, où nous allons devenir à son image, de bonté, de patience, de douceur, etc. Et puis, enfin, la résurrection de notre corps à son image. Deux temps. Premier, l'esprit qui est transformé. Deuxième, le corps. Et si l'esprit est dans la résurrection, le corps suivra. Et pour tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, si Jésus revient dans deux jours, eh bien, je suis vivant, et vous aussi. Pour les croyants, le changement, la transformation se fera en un instant. Peut-être que certains vont sourire, mais écoutez bien la suite. En un instant, nous serons transformés en un clin d'œil sans passer par la mort. Oh, on hausse les épaules, on sourit gentiment, on est poli. Jésus disait à propos de la résurrection, il y avait des moqueurs aussi devant lui. Il disait par exemple, si un homme, il a une femme, et puis que plutôt une femme s'est mariée, le mari décède. Il se remarie avec son frère, le frère de son mari, puis il décède aussi, puis un deuxième frère, un troisième frère. Alors les gens disaient, mais là-haut, comment ce sera? Cette femme, elle aura sept maris. Jésus disait, vous ne comprenez rien à la puissance de Dieu. Je pense que nous serons transformés, la résurrection du Christ est faite en une seconde. Pas réanimé avec des appareils d'oxygène, une seconde. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance de transformation qui fera de nous des corps pour le ciel, se fera en un clin d'œil, dit la Bible. Littéralement, en grec, en un atome de temps. Un atome de temps. Pouf! Nous attendons cette rédemption du corps, la délivrance du corps. Pas pour mettre le corps à la poubelle, mais nous attendons ce changement dans le corps humain. Ça va? Justement, parlons du corps. Vous voulez bien pour finir? Alors, on se posait la question au temps des apôtres, mais comment on ressuscite? Avec quel corps on ressuscite? L'apôtre Paul, il a pris une petite image toute simple, toute banale. Il disait, mais les poissons, ils ont une sorte de chair. J'aime bien le poisson, je vous rassure. Les oiseaux, ils ont une sorte de chair. Les quadrupèdes, je ne mange pas du lion, c'est la passion, ils ont une sorte de chair. Les hommes, ils ont une sorte de chair. Dieu leur donne une chair comme il veut. Bon, il prend un argument un peu simple. Eh bien, il dit, Dieu peut faire un corps humain, vraiment humain, avec d'autres propriétés que notre corps d'aujourd'hui. Comme le corps de Jésus. Il a traversé la pierre tombale. Il est rentré dans la pièce des apôtres. Et Jésus dit, touchez-moi, j'ai des os. Ah, je ne comprends plus rien. Moi non plus, je ne comprends rien. On ne comprend pas la puissance de Dieu. Pourquoi on analyse tout, mais là, ça dépasse les mathématiques, la physique, la chimie. Et nos corps de ressuscité seront adaptés à la vie nouvelle, qui sera à la fois céleste et terrestre, parce qu'on restera sur une terre. Le corps fait partie de nous-mêmes. C'est une expression de nous-mêmes. Le plan de Dieu ne serait pas parfait, ne serait pas accompli si nous restions des âmes, même bienheureuses, si nous restions des âmes, même en présence du Christ. Mais le plan de Dieu ne serait pas parfait si nous n'avions pas un corps transformé, adapté à la nouvelle condition de vie. C'est beau. On me pose des questions parfois, comment on respirera, comment on mangera. Je ne me pose plus de questions pour tout ça. Vous savez que il y a des pieuvres et des poissons, aujourd'hui, là, sur notre monde, qui peuvent changer en un instant de couleur et de forme. De forme. La pieuvre qui dit, oh, ça, j'ai failli dire, ça paraît magique. C'est naturel. Elle se transforme pour se cacher, pour chasser, etc. Bon, mais bon, ça fait partie du monde animal, mais je vous parle de la transformation en un instant. Oh, les couleurs changent. Des petits pois, des petits carrés. Je ne comprends pas la puissance de Dieu. Bon, j'arrive à la fin. Je rejoins mon texte sur le mauvais riche et Lazare. Vous voulez que je vous dise la question que vous ne voulez pas me poser ? Je vous l'ai dit. Irons-nous tous au paradis ? Là, c'est compliqué. Là, je marche sur des œufs. Permettez-moi de me tenir vraiment dans la réserve et de bien suivre mon plan. Oui, il y a un jugement. Après la mort, il y a un jugement dernier, définitif. Et Jésus disait, alors là, Jésus nous étonne, dans le parabole du jugement dernier, il dit « Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Petite note, le mot « enfer » n'est pas dans la Bible. « Enfer », ça veut dire les lieux inférieurs, tout en bas. Ce n'est pas dans la Bible. On l'a inventé. Et Jésus, il ne contredit pas les images les plus terrifiantes sur le feu, la Géhenne, qui était une vallée de Jérusalem où l'on brûlait des détritus et parfois même on avait sacrifié des enfants par le feu. Enfin bon, des histoires. Et Jésus ne contredit pas un certain feu. La preuve, dans la parabole, là, il dit le mauvais riche dans le feu. Jésus, parfois je me dis, il est prédicateur de l'urgence. Il nous secoue. Un jour, il y a une tour qui est tombée à Siloé. Une tour est tombée, elle a tué des gens. Et Jésus dit, attention à vous. Il faut vous décider maintenant pour Dieu, sinon vous allez aussi mourir. Oh, il nous décoiffe. L'urgence. Alors, je vous cite et je vais conclure. L'apôtre Paul, il dit, au nom de Jésus, Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira, tout. Il n'y a pas un homme qui échappera à cette chose et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Même les incrédules, les plus méchants, ils seront devant la vérité. Ils ne seront plus dans la révolte. Le mauvais riche dans le séjour des morts, là, il ne se révolte pas contre Dieu. Il ne se révolte pas contre Abraham. Oh non, c'est pas juste. C'est une honte. Il ne méprise plus son prochain. Il passait tous les jours devant le malheureux Lazare qui était rongé d'ulcère, il sautait par-dessus pour ne pas s'en occuper, il allait faire la foire tous les jours. Il ne méprise plus son prochain, il ne méprise pas Dieu. Maintenant, il a une lucidité sur lui-même. Je fais attention aux mots. Il se juge en accord avec Dieu. D'accord, j'étais vraiment un idiot. Je n'ai pas fait attention à ce misérable qui me demandait une miette de pain. Moi, j'avais des gâteaux et les buffets étaient pleins. Et je ne lui ai jamais donné une miette. Et je n'ai même pas compris ce que tu étais. Il se juge en accord Mais c'est ça, sa souffrance. Voyez-vous ? Souffrance du mauvais riche, c'est que il est d'accord avec la vérité de sa vie. Et ce feu ? Je peux marcher sur les œufs un peu ? Personnellement, je ne vais pas dire, je ne pense pas, je ne sais pas si ce sera du vrai feu, puisque nous serons dans un autre monde. Mais ce feu pourrait être le feu de la conscience, de la culpabilité. Vous n'avez jamais ressenti ça ? Oh oui, on sait ce que c'est. On ressent, nous, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, on s'en veut. C'est peut-être ça. Je dis peut-être parce que je ne veux pas affirmer tout. C'est peut-être ça, le feu qui nous dévorera. La vérité n'est plus masquée par la joyeuse vie, la brillante vie du mauvais riche là, qui, à force de voir la festivité, la joie, etc., il ne voyait plus la vérité. Il ne voit maintenant que ce qui a été sa vie, selon la vérité. Alors voyez-vous, c'est compliqué, mais le chemin est simple. La mort n'est pas la disparition de l'existence, mais dans la mort, il n'y a plus de changement possible. Et Dieu nous traite vraiment comme des grands pour nous dire, vous êtes responsables. Et je vous tiens comme responsable avec moi de votre destinée éternelle. Alors, quelle est ma mission aujourd'hui ? Ma mission de pasteur, tous les chrétiens, le salut. Il n'y a pas rien de plus grand que de passer dans la lumière de Dieu quand nous allons mourir et quand il reviendra. Alors, qu'est-ce que c'est le salut ? Soyez réconciliés avec Dieu. Recevez Jésus-Christ, faites-lui confiance, appuyez-vous sur lui, espérez en lui, mettez vos mains dans ses mains, demandez pardon, écoutez ses enseignements. Ah, et puis c'est tout, oui. C'est simple et beau. Dieu n'a pas fait des chemins compliqués. Mais derrière ça, les mots que je viens de vous dire à l'instant, derrière cela, il y a tout. Résurrection, gloire dans le ciel, magnificence, fête dans le ciel, retrouvailles. Bon, écoutez, je dis amen et puis que Dieu vous soutienne, que Dieu vous dirige dans toutes ces considérations que nous avons partagées ensemble. Je vais prier avec vous maintenant. Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans notre chemin de vie, pour que ce chemin ne nous éloigne jamais de toi, ni des autres, mais que nous restions à ton ombre et dans ta lumière aussi, et qu'un jour nous puissions te voir et retrouver tous ceux qui nous ont aimés et qui ont mis aussi leur confiance en Jésus-Christ. Merci pour toutes ces choses que nous avons partagées. Reste avec nous, Seigneur, car les jours déclinent. Amen.